Chers frères et sœurs, il y a quelque temps, avec un frère de communauté, on évoquait la vie et la fin d'un martyr, un martyr d'Asie, d'un de ces pays qui constituait autrefois l'Indochine. Et la nouvelle de son martyr était parvenue à son papa. Et son papa disait vraiment volontiers, je rendrai gloire à Dieu pour la gloire dans laquelle est rentré mon fils et pour le témoignage qu'il a su donner, mais je n'en ai pas la force. Je trouve que c'est très beau, parce qu'en même temps, il y a une perception de l'événement en tant que tel, qui est un événement de gloire, mais qui laisse en même temps cette trace douloureuse. Et je me disais, en méditant sur cette fête de l'Ascension, il ne faudrait peut-être pas trop vite éliminer la part peut-être de douleur qu'elle peut susciter, mais même si c'est une douleur glorieuse, même si ce n'est pas exactement le cas de notre martyr que je viens de citer, mais malgré tout, quelque chose qui fait un pincement au cœur. Nous avons parfois le sentiment ou la manière de dire que l'Ascension, c'est une fête joyeuse, que les disciples s'en vont tout joyeux, c'est vrai, c'est dit dans l'Évangile et dans l'Écriture, mais c'est parfois un peu rapide. Il faut, je crois, que nous puissions accepter que cette fête puisse nous coûter, que cet événement ait pu coûter aux apôtres pour ainsi avoir conservé les yeux tournés vers le ciel un certain temps, à tel point que les anges eux-mêmes aient dû venir pour les en détourner. Car se voir séparés d'un instant à l'autre de celui dont ils avaient partagé la vie, les repas, les enseignements, les déplacements à travers la Galilée, la Judée, la Samarie, cette vie quotidienne, eh bien voilà qu'il n'est plus avec eux. Quel sentiment les étreint ? Quel sentiment nous aurait étreint si nous avions été à leur place ? N'y a-t-il pas là une forme de deuil, même s'il est joyeux et glorieux ? Il faut commencer par là, sous peine peut-être d'oublier notre humanité. Ce n'est pas le spirituel qui paraît d'abord, c'est le psychique, puis le spirituel, nous dit saint Paul. Ce sont tous nos réseaux d'affection, toutes nos réactions humaines qui paraissent d'abord, ensuite assumées par la foi et par la grâce. Puisque nous sommes charnels, il faut d'abord que nous aimions charnellement, commentait saint Bernard. C'est l'humain, nos affections, nos peurs, nos tristesses, qu'il faut commencer par accueillir. Et il nous est bon de commencer par cela avec humilité, sauf à tomber dans l'illusion, et étant dans l'illusion, nous ne pouvons faire aucun progrès. Voilà, il faut commencer par là, mais il ne faut pas en rester là. Les disciples, comme dit Jésus, les disciples ont connu le Christ, plutôt comme dit saint Paul, ont connu le Christ selon la chair. Dans cette vie quotidienne, justement, un Christ qui est compagnon, qui marche, qui les interroge sur les événements de leur vie, comme il le fit avec les disciples d'Emmaüs. Et ce Christ, c'est un vis-à-vis, c'est un compagnon de route. Mais aujourd'hui, le Christ qui monte au ciel n'est plus un vis-à-vis. Il est à l'intérieur d'eux-mêmes, par son Esprit Saint. C'est en eux qu'il habite. Cela exige des apôtres une vraie conversion. Une conversion qui n'est pas d'abord morale, puisque les apôtres se sont mal conduits et ils doivent arrêter de se disputer, tout ce qu'on peut imaginer de ce style-là. Non. Une conversion qui est un pas de plus dans la foi. Une manière de nous détacher, ou plus exactement, de relativiser l'expérience des sens et des sentiments pour que s'éveille à l'intérieur de nous un nouveau sens, une nouvelle sensibilité. Il faut le reconnaître, oui, le Christ s'est dérobé à leur vue. Alors oui, à nous aussi, c'est la même chose. Qui d'entre nous a entendu vraiment la vibration de la voix du Christ, telle qu'elle était apparue aux apôtres quand il était avec eux? Qui l'a vu de ses yeux de chair? Moi, je ne l'ai pas vu. Il est présent, cela dit, en nous. Il est présent aussi dans le monde, mais à condition que nous le voyons avec ses sens intérieurs, avec, si je puis dire, comme un sixième sens qui se soit éveillé en nous. Et c'est là où nous avons tout un chemin à faire. Plus nos sens extérieurs se repaissent de sensations, plus ils y sont attachés, plus ils aiment leur plaisir, plus ils en sont saturés et comblés, et moins ils sont capables de faire cette expérience de Dieu. Jésus nous avertit lui-même : « Je suis venu pour que voient ceux qui ne voient pas. » Ceux qui ne voient pas, c'est-à-dire ceux qui sont devenus aveugles au monde, parce que justement, ils cherchent autre chose, eh bien à cela, Jésus leur donne la vue. La vue, ce sixième sens, ce sens spirituel, pour pouvoir le contempler. Il ne s'agit pas d'être en dehors de la réalité, rien à voir. J'ai bien conscience qu'un tel discours est complètement inacceptable pour notre monde d'aujourd'hui, marqué vraiment par le consumérisme, par le pragmatisme, par le goût du plaisir. Et pourtant, si le monde, si cette séduction nous fascine, nous en devenons prisonniers et Dieu nous échappe. Ève a été fascinée par le fruit et elle a cessé de voir Dieu. Et en même temps, à l'inverse, plus nous exerçons ces sens spirituels, ce sens de Dieu, plus il s'affine, plus nous avons le goût de Dieu, plus nous voyons Dieu, plus nous le verrons. Plus nous le goûtons, plus il nous semble bon. C'est ce dynamisme propre de la vie intérieure. Nous lisons les Actes des Apôtres et j'étais frappé de voir aussi l'intimité d'un saint Paul avec cet Esprit Saint qui est pour lui comme une personne qui le dicte ses déplacements. Non, tu ne vas pas aller en Asie. Non, tu vas aller en Macédoine. L'Esprit Saint est comme lui, et pour lui comme vraiment ce guide immédiat, puisqu'il a ce sens qui lui permet de le percevoir. Et je voudrais insister, chers frères et sœurs, que ce sens de Dieu, c'est quelque chose de réel. Parce que nous, trop souvent en Occident, on se dit « plus il y a de la nuit, mieux c'est, plus c'est le silence, mieux c'est, plus je suis généreux et mieux c'est ». Non, c'est pas ça. Avoir cette expérience de Dieu, c'est pas entrer dans la grande nuit de la foi, ne rien voir, ne rien sentir, et se persuader à force de volonté, en se disant « Dieu existe, j'y crois, c'est bon, même si finalement je suis complètement perdu ». Il y a bien une expérience de Dieu. Et quel est le fruit de cette expérience? C'est la joie. La joie, elle est réelle, elle est là. Et je peux pas la mettre en question. Bien sûr que l'expérience de Dieu, c'est pas comme celle de voir un beau spectacle ou d'écouter une belle musique. C'est tout à fait différent. Mais le fruit, il est réel. C'est cette joie profonde et solide en moi. Et celui qui n'a pas fait cette expérience de Dieu, sa foi reste fragile. Mais cela nécessite que nous grandissions, que nous nous détachons des témoignages immédiats des sens. Vous le savez bien, chers frères et sœurs, cela est vrai dans tout amour humain. Un amour humain qui ne cesse de réclamer des gages d'affection, des preuves de fidélité, il devient pesant. C'est un amour qui ne supporte pas l'absence, c'est un amour qui est finalement fort immature parce qu'il ne sait pas rentrer dans la spiritualité, au sens fort du terme, rendre présent ce qui est absent. De même, dans notre foi, une foi qui en resterait aux grâces sensibles, aux bienfaits perceptibles de Dieu, eh bien, c'est une foi d'enfant. Combien de fois je le dis, mais quand je discute avec des jeunes, prié le bon Dieu, ma grand-mère elle est tombée malade, j'ai prié le bon Dieu pour qu'il la guérisse, elle est morte, à 97 ans on peut peut-être faire le passage vers l'autre monde. Ben j'ai arrêté de prier, je crois plus en Dieu. Voilà. Ben combien d'entre nous on en est là parfois? Et moi le premier. Voilà donc, accepter justement de rentrer dans une foi plus adulte, et le péché justement, c'est refuser cette croissance, refuser, pour le dire autrement, de passer de la chair à l'esprit. Et chers frères et sœurs, la Vierge Marie elle-même, elle a dû vivre ce chemin de détachement, se détacher de son Fils selon la chair pour le recevoir selon l'esprit. Ça n'a pas été facile, ça a été la grâce qui fait craquer le cœur. Mais ce chemin, il est très beau. Il suppose que jour après jour, nous vivions nous-mêmes ces petites ascensions. Ne t'attache pas à telle parole piquante, ne fais pas un drame de ce manque d'égard, réjouis-toi du bien qu'on dit de l'autre. Tout cela, à chaque fois, c'est monter un petit peu au-dessus de nous-mêmes, comme disait saint Bernard. Cela suppose aussi une certaine ascèse, comme je le disais, ne pas se complaire dans les biens matériels ou affectifs. La grâce nous arrache à nous-mêmes, nous fait sortir de nos pesanteurs et nous fait vivre cette béatitude que promet Jésus à saint Thomas et aux apôtres. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Une dernière chose, quand on lit les Actes des Apôtres aussi, on est frappé de cela. Quelle est la grande consolation des apôtres? Celle d'un saint Paul. C'est certainement de trouver le Christ dans la prière, cette proximité avec Dieu dont témoignent bien des passages de ses lettres, ses expériences mystiques même. Mais plus encore peut-être, c'est de voir que Jésus désormais naît partout où il prêche, qu'il naît dans les cœurs, et pour le dire autrement, la mission, c'est sa grande consolation. Oui, la fin de l'évangile de saint Marc nous le dit, le Seigneur travaillait avec eux. Ce n'est plus simplement un Seigneur contemplé, c'est un Seigneur qui travaille pour faire croître dans le monde sa propre présence, qui coopère avec les apôtres, et telle est leur grande joie. Paul l'évoque ainsi dans la deuxième lecture, « Voir que se construit le corps du Christ ». Oui, le bonheur d'être avec le Christ n'est pas annulé, bien sûr, mais il est complété. C'est le bonheur de voir que le Christ naît dans le monde. Le bonheur d'être avec le Christ est achevé, comme le dit le pape François, par la douce joie d'évangéliser. Alors si nous sommes tristes, demandons-nous si nous sommes assez missionnaires. Je crois profondément, chers frères et sœurs, que cette joie est spécialement réservée à notre temps. Un temps, certes, où Dieu est absent de notre monde, mais où il ne demande qu'à naître, où il ne demande qu'à croître, qu'à se développer, moyennant notre parole, notre exemple et le don de nous-mêmes. Que Notre-Dame des Apôtres nous y aide, que sa prière nous obtienne la force de dépasser la chair et d'annoncer son Fils. Amen.